Tu aimes Jésus, tu as pris ton baptême, tu vas régulièrement dans une église. Eh bien, tu es sauvé, tu as ton salut. On vous a peut-être présenté le message du salut de cette manière. Eh bien, autant vous dire que ça n'est pas du tout ce que nous dit l'Écriture, ce que nous révèle Jésus et ses apôtres. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous invite à écouter cette vidéo car vous risquez d'être surpris. En effet, on va étudier trois choses dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que le salut ? Secondement, on va considérer les affirmations « on ne peut pas perdre son salut »,« une fois sauvé, toujours sauvé »,« on a la sécurité du salut », etc. On va les considérer par rapport à ce que nous dit l'Écriture. Et enfin, on va voir dans une troisième partie pourquoi certains parlent d'un salut irrévocable ou de sécurité du salut. Et là, on va particulièrement parler de la grâce et vraiment, je vous invite à regarder toute la vidéo pour bien comprendre le problème de ceux qui affirment qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Parce que c'est un vrai problème et c'est une fausse doctrine qui accourt partout aujourd'hui sur Internet. Et on verra dans cette dernière partie d'où ça vient, pourquoi ça vient. Et évidemment, ce qu'il nous faut faire pour nous en prémunir. Une fausse grâce, c'est égal à une fausse sécurité. Alors c'est parti. D'abord, premièrement, on va voir ce qu'est le salut. Eh bien, le salut, c'est très simple. C'est connaître Christ. Je vous donne un premier verset. Jean 17 au verset 3 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, Jésus parle à son Père, et il nous dit « La vie éternelle, c'est de le connaître lui et de connaître le Père. » L'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 20, nous le confirme. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et tout au long de cette vidéo, je vais vous citer parfois des versets ça et là, et vous verrez qu'on retrouve cette notion de connaître Christ, connaître Dieu, etc. Et donc le salut, eh bien, c'est connaître Christ, et le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà, le salut est une personne. C'est dans Luc, au chapitre 2, versets 29 et 30, le vieux Siméon qui est dans le temple et qui voit Jésus dans les bras de Marie. Il est encore bébé, et le vieux Siméon dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Voilà, je vous en cite pas plus, mais ce vieux Siméon, il voit un bébé, le bébé Jésus, et il dit « Voilà, j'ai vu le salut de Dieu. » C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et donc, connaître Christ, c'est connaître le salut. C'est avoir le salut. Et vous retrouvez cette notion également dans le premier chapitre des Éphésiens, où l'apôtre Paul nous dit beaucoup de fois « En lui, en lui, vous avez ceci, en lui, vous êtes cela, etc. etc. » Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'il nous faut comprendre. Mais alors, nous avons un homme corrompu, et le salut, c'est de connaître Christ. Dans les milieux chrétiens, on a prêché « Viens à Jésus ». On a prêché « Reçois Jésus dans ton cœur ». Donc, je suis un homme corrompu, et puis ben, je viens à Jésus, ou je reçois Jésus en moi. Croyez-vous réellement que c'est ça que nous a prêché Jésus ? Alors oui, bien sûr, il nous a dit de venir à lui, mais c'est important de ne pas prendre un petit verset et de le détacher de toute la révélation. On doit voir l'image complète. Non, un homme corrompu ne peut pas être en communion avec Jésus-Christ. Et s'il doit venir à Jésus, c'est pour une bonne raison. Alors on va voir ce que Jésus lui-même nous dit. Dans Jean 3, au verset 3, Jésus dit à Nicodème qu'il nous faut naître de nouveau, ou littéralement naître d'en haut. Et il va nous préciser dans sa prédication des étapes. Dans Marc, au chapitre 1er, au verset 15, Jésus nous dit que l'homme doit se reconnaître pécheur et se repentir. Dans Jean 3, au verset 16, il nous dit qu'il doit mettre sa foi dans la justification en Christ. Et dans Marc 16, au verset 16, qu'il doit être baptisé d'eau. Et Pierre ajoute dans Acte 2, au verset 38, que l'homme doit recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je l'ai mis à part parce que, en réalité, ces trois premiers points, de la repentance, de la foi en Christ et du baptême d'eau, ils sont orchestrés, j'ai envie de dire, par le Saint-Esprit qui va agir dans le cœur de celui qui découvre le message de l'Évangile. Alors, je répète, l'homme doit se reconnaître pécheur, il doit mettre sa foi dans l'œuvre de Christ. Et à ce moment-là, le baptême d'eau intervient pour enterrer l'homme pécheur afin que l'homme pécheur renaisse homme nouveau, homme comme Christ. Et là, nous avons pleinement le message de l'Évangile. Bon, j'ai pas lu tous les versets, je vous l'ai fait un petit peu vite, mais c'est pour qu'on voie la suite, pour pas prendre trop de temps. Mais en tout cas, vous avez les points ici essentiels. Mais alors la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est que se passe-t-il si un jour la foi se ternit et l'homme s'éloigne de Christ, qu'il se met à vivre de nouveau dans une vie de péché et qu'au bout du compte, il n'est plus du tout comme Christ. Cet homme est-il toujours sauvé? Et c'est ce qu'on va voir précisément dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vous donne un tout petit verset qui va diriger la réponse. Dans 1 Jean au chapitre 2 et versets 4 à 6, Jean nous dit « Celui qui dit « Je l'ai connu », vous voyez, connaître Christ, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. » Voyez là, Jean, il parle à des enfants de Dieu. Et là, vous trouvez dans ce verset ces mots-clés quant au salut. « Je l'ai connu, gardez ses commandements. » Et si on ne garde pas, c'est que la vérité n'est point en nous. Mais l'amour est parfait dans celui qui garde sa parole. Et là, nous savons que nous sommes en lui, comme je vous parlais d'Éphésiens 1er, où il nous dit « en lui ». Et celui qui demeure en lui. Vous verrez tous ces mots, on va les retrouver dans ce qui suit. Alors, on ne peut pas perdre son salut, une fois sauvé, toujours sauvé. Eh bien, accrochez-vous, ça va aller un petit peu vite parce que je vais passer sur plein de passages, mais il y a plein de passages qui vont répondre à cette question. Et si ça va trop vite pour vous, je vous invite à peut-être revoir une deuxième fois la vidéo ou faire des pauses, lire les passages dont je vous parle et ensuite voir les questions et les commentaires que je vais pouvoir en faire. Le premier passage que je vous propose, c'est Galates 5. Au verset 4 à 7, Paul parle aux Galates, qui sont des chrétiens, qui ont été visités par des juifs qui les ont remis sous la loi en leur disant qu'ils devaient être circoncis pour être sauvés. Et voilà ce que Paul leur dit. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Bon, notez bien, séparés de Christ. Vous vous rappelez le petit schéma que je viens de vous faire? Eh bien, séparés de Christ, c'est en dehors de lui. Et déchu de la grâce, c'est sorti de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans ce verset, vous retrouverez aussi des éléments qu'on va voir plus tard quant à la grâce. Alors, ceux qui prétendent qu'on ne peut pas perdre son salut, ils ont souvent ce verset à mettre en avant, Jean 10, au verset 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Alors, en effet, lorsqu'on entend que personne ne peut nous ravir de la main de Jésus, eh bien, on peut être sûr de son salut. Alléluia, je suis en lui, eh bien, personne ne peut m'arracher aux mains du Seigneur. Et nous pouvons le vivre et nous pouvons croire ainsi, il n'y a aucun problème. Mais nous devons prendre tout ce que nous dit l'Écriture. Parce que Jésus lui-même, dans Jean 15, au verset 4 à 6, nous dit aussi ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, il ajoute « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Alors, là, certains vont vous dire « Oui, mais là, il n'est pas question du salut, il est question de porter du fruit. » Bon, d'accord. On a une parabole dans Luc 13 au verset 6 à 9, le figuier stérile, je ne vous la lis pas, mais dans cette parabole, eh bien, ce figuier, il reçoit les soins du vigneron de Christ. Mais s'il reste sans fruit, le propriétaire, c'est-à-dire le père, le coupera. Alors que veut dire couper? Un arbre qui est coupé d'un jardin, qu'est-ce que ça veut dire? Et puisqu'il est question de fruits, on va aller un petit peu plus loin. Ceux qui vous disent qu'on est sauvé par grâce, donc qu'on n'a absolument rien à faire pour notre salut, ils s'appuient sur ce verset et ils ont raison. Éphésiens 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et on dit « Amen » à cette parole, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher de cette parole. Oui, la grâce nous est donnée par Dieu. Restez vraiment pour cette troisième partie, parce que vous allez comprendre ce que c'est que la grâce. Et on peut affirmer pleinement que aucune œuvre que nous puissions faire sur cette terre ne nous apporte un quelconque salut. Si juste que nous nous comportions, si juste que nous soyons, on peut avoir fait toutes les bonnes œuvres de la terre, on n'a Une justice qui est largement insuffisante pour prétendre un jour nous présenter devant Dieu. La seule justice que nous devons rechercher et obtenir, eh bien c'est celle qui nous vient de Dieu, par Christ Jésus. Mais maintenant, on va lire quatre petits textes. 1 Timothée 1,18, Paul qui parle à Timothée, il dit « C'est que d'après elle, les prophéties, là tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Premier texte. Deuxième texte. Jacques 2,17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Troisième texte. Jean 15,2, on vient de le lire. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, nous dit Jésus, il le retranche. Et Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pourquoi je vous fais lire tous ces textes? Parce que premièrement, je veux vous montrer que certaines personnes font naufrage par rapport à la foi, et on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Jacques ensuite, il nous dit « La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. » Tiens, bon, donc là, ça veut nous dire que la foi devrait porter des œuvres. La foi devrait aboutir à des œuvres. Bon. Et ensuite, là, Jésus nous parle, lui, légèrement différemment, il nous parle de porter du fruit, comme on l'a vu, et Galates nous dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc., etc. » Bien. Pourquoi je vous fais lire tout ça? Parce que Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mais voici le verset suivant. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et là, vous comprenez pourquoi Jacques nous parle d'œuvres, parce qu'elles sont ici, c'est la suite de ce texte, hein. Et vous comprenez que Dieu les a préparées pour que nous les pratiquions, eh bien on retrouve cette compréhension de porter du fruit, et quel fruit? Pas le nôtre bien sûr, le fruit de l'esprit. Voilà. C'est pour ça qu'il y a souvent eu cette opposition entre « on est sauvé par la foi », « non, on est sauvé par les œuvres », etc., comme si ces deux textes d'Éphésiens 2 et de Jacques 2 semblaient s'opposer, alors qu'en fait, ils ne s'opposent pas du tout, mais ils se complètent. Et je le détaillerai un petit peu plus par la suite. Et je vous ai fait lire également 1 Timothée 1,8. Pourquoi? Parce que veut dire faire naufrage par rapport à la foi? Que veut dire une foi morte? Est-ce que vous pensez que quelque chose de mort est actif comme moyen? Puisque là, Éphésiens 2,8 nous dit « par le moyen de la foi ». Bon. Ensuite, que veut dire « retrancher » Quand Jésus dit « tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits », il le retranche. Retrancher. Allez, je ne réponds pas, on continue. Colossiens 1,21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Bon, là, en fait, on voit bien que eh bien, c'est Dieu qui nous fait paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais le verset 23 nous dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Donc il y a un « si », en fait. C'est Dieu qui va nous faire paraître devant lui, saint et sans défaut et sans reproche. Mais il y a un « si ». Le « si », la condition, c'est de demeurer inébranlable dans la foi. Je ne fais que lire la Bible. Hébreux 3, versets 12 à 14. « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Que veut dire ? Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, eh bien c'est une condition. Que signifie « pourvu que nous retenions » là, ce qu'on a lu là? Il parle, il le dit, hein, prenez garde, frère, il parle à des frères. Que certains aient un cœur mauvais et incrédule. Incrédule, c'est sans foi. La foi a disparu. Le cœur mauvais, c'est ce cœur qui produit de mauvaises œuvres. Je continue. Matthieu 25, les 10 vierges. Alors, ceux qui prétendent « une fois sauvés, toujours sauvés », eh bien, ils vous disent que les cinq folles, ce ne sont pas des vrais chrétiens, en fait. Mais elles attendent toutes le Seigneur. Les enfants de Dieu attendent le Seigneur. Tous. Elles sont vierges, c'est-à-dire qu'elles sont lavées, sanctifiées, qu'elles sont pures. Elles ont la lampe, elles ont reçu la lumière. On ne peut pas prétendre qu'elles ne sont pas enfants de Dieu. C'est tordre les Écritures. Jean 15, donc le cep et les sarments, on l'a vu. Sans fruit, il est retranché, ça veut dire coupé du cep, ça veut dire séparé de Christ. C'est Christ le cep. Jeté au feu, il brûle. Ben, le feu, je vous rappelle que c'est majoritairement apparenté au jugement, au feu éternel, etc. Ensuite, 2 Timothée 2,12. Là, il est question de renier Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bon, ben là, c'est clair. Celui qui renie Christ, c'est-à-dire j'ai cru en lui, et puis quelques temps plus tard, non, je rejette ma foi en Jésus, non, finalement, je me tourne vers d'autres dieux, ou je redeviens un athée que j'étais avant, que sais-je. Christ nous reniera. C'est celui qui est sauvé, il sera confessé par Jésus devant son Père. Eh bien, celui qui est renié, il ne sera pas sauvé. Mais nous avons cette parole du verset 13 qui est encourageante. Si nous sommes infidèles, hein, c'est-à-dire que si on chute, si on a des manquements, si on se détourne, eh bien, lui demeure fidèle. Sa grâce est toujours là, disponible pour nous. Et alors, Tite chapitre 1 et versets 15 à 16 nous dit quelque chose de très intéressant. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Hein, » vous retrouvez « souillés et incrédules », c'est-à-dire sans foi. « Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. » Vous avez vu ?« Connaître Dieu. » « Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Donc, on peut renier Christ peut-être de la bouche, mais on peut aussi renier le Seigneur par nos œuvres. Pourquoi ? Parce que nos œuvres sont des œuvres qui sont abominables à Dieu, qui sont rebelles, etc., etc. Et là, on retrouve pleinement cette parole de Luc 13, où Jésus dit, au verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Je vous renie donc. Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Vous voyez comme c'est cohérent que celui qui fait profession de connaître Dieu, mais qui a des œuvres d'iniquité, qui est donc un ouvrier d'iniquité, eh bien le Seigneur va lui dire « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. » Bon, Ananias, Saphira, je voulais juste stipuler. L'épisode qui arrive à Ananias et Saphira, qui étaient donc des chrétiens de la première église, pensez-vous qu'avec ces paroles que Pierre va annoncer sur eux, pensez-vous qu'ils soient sauvés ? Je vous laisse réfléchir. Hébreux 6, versets 4 à 6. Terrible passage. Et alors évidemment, il faut vraiment comprendre le passage, etc. Mais je vous le lis quand même. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Alors je vous dis, hein, il faut comprendre le contexte. Parce que ce passage fait peur souvent à beaucoup de chrétiens, parce que « Ah, je suis tombé, j'ai chuté, donc là, oh là là, j'ai insulté le Seigneur, c'est plus possible, je ne peux plus être restauré. » Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Mais je prends ce passage simplement pour vous montrer que, eh bien, le don céleste, c'est la grâce de Christ. Ils ont eu part au Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont été régénérés. Ce sont des vrais chrétiens, nés de nouveau. Ils ont goûté à la bonne parole et aux puissances du siècle à venir. Les dons, les fruits, la paix, c'est tout ça dont il est question. Alors que veut dire ? Il est impossible qu'ils soient encore renouvelés. Je vous laisse répondre. Jacques 2, 14, la foi sans les œuvres. Bon, on en a brièvement parlé. Jacques nous dit là, une foi sans œuvres peut-elle le sauver ? Et au verset 17, il nous dit, sans les œuvres, la foi est morte. Et au verset 19, il nous dit, croire seulement, eh bien c'est avoir la foi des démons. Sont sauvés les démons ? Je vous laisse répondre. Matthieu 25, verset 30, la parabole des talents. Donc il y en a un qui reçoit un talent comme les autres, il a donc une part à la foi comme les autres, mais il est infructueux et finit par être jeté dehors. Tout va bien pour lui à votre avis ? C'est ça que Jésus enseigne ? Je continue. Apocalypse 3, verset 1er, l'église de Sardes. Une église morte. Ben, une église morte, c'est qu'elle n'a pas la vie de Christ en elle, tout simplement. Certains dans cette église sont prêts de mourir. C'est Jésus qui le dit. Certains marcheront en vêtements blancs. Eh bien, eux, ils sont vivants. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans une église morte qu'on est mort nous aussi. Apocalypse 3,16, Laodicée, c'est une église qu'il vomit. Je te vomirai de ma bouche. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est je te rejetterai de mon corps, du corps de Christ. Donc, d'une manière générale, les épîtres de cette église Dans toutes ses épîtres, Jésus commence par s'adresser à toute l'Église, à tout le monde. Il finit toujours par s'adresser à une personne, à celui qui vaincra. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il pour celui qui ne vainc pas ? Si je ne suis pas un vainqueur, qu'est-ce qui m'arrive ? Là encore, je vous laisse répondre. J'en ai encore. Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, certains vont vous dire « Oh, mais là, tu nous parles d'un passage qui parle des faux prophètes. » Oui, mais Jésus dit « Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas ce que Jésus enseigne à tout le monde ? Alors, qu'en est-il de l'enfant de Dieu qui ne fait pas la volonté de Dieu ? Regardons l'attitude de Paul, Romains 8, 13, voilà ce que Paul nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On ne peut plus clair. Et Paul, voici ce qu'il disait de lui-même au 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, il y a des gens qui vous disent « on ne peut pas perdre son salut, une fois sauvé, on est toujours sauvé, on n'a rien à craindre ». Mais Paul, il disait pas ça, lui. Lui, il disait « de peur d'être rejeté, je tiens mon corps en bride de peur d'être rejeté ». Il disait des églises, dans Galates chapitre 4, verset 20, « Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet ». Pourquoi il est inquiet, Paul, si on ne peut pas perdre son salut et que les Galates sont sauvés ? Pourquoi il s'inquiéterait ? Vous voyez tout ce que nous dit la parole ? Et Jésus nous dit « Veillez et priez à de multiples reprises ». Pourquoi veiller et prier si le salut ne dépend que de Dieu ? Vous voyez ? Dieu a décidé de nous sauver, voilà, bah, c'est fait, et bien maintenant, bah, c'est bon. Pourquoi alors Jésus nous demande de veiller et de prier ? Pourquoi tous ces avertissements de Jésus sur le fait de ne pas se laisser séduire ? Matthieu 24, 48 par exemple. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette expression « pleurs et grincements de dents », elle y est 7 fois dans les 4 évangiles. Et à votre avis, que veut-elle dire ? Allez, un dernier, je termine avec cette partie. 2 Pierre chapitre 2 verset 17, donc là il parle de faux docteurs, il n'y a pas de problème. « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, mais on va voir ce qu'il dit après. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. » Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, c'est de nouveaux convertis, hein, voilà. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des soudures du monde par la connaissance, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Tiens, vous voyez, on peut s'engager à nouveau dans les souillures du monde et être vaincu. Et Jésus, dans l'Apocalypse, nous parle des vainqueurs. Donc ceux qui ont gardé la foi et qui ont été vainqueurs par la foi. Vous voyez, comme tout est cohérent. Verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. » Alors voyez, ils ont connu la voie de la justice, on en reparle tout de suite après. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je viens de vous citer, j'ai pas compté, mais il y a peut-être une vingtaine de versets qui nous avertissent tous que l'on peut chuter, déchoir de la grâce, chuter quant à la foi, revenir aux souillures du monde, etc. etc. Eh bien figurez-vous que j'en aurai encore une vingtaine d'autres facilement sous le coude à vous proposer si vraiment je voulais que la vidéo soit bien plus longue. Là, j'essaie de ne pas trop la prolonger, mais je pense que ça suffit, tout ce que je vous ai donné, pour voir qu'il y a un gros problème avec cette affirmation. Alors, on va voir pourquoi, et là, je vous ai promis qu'il y aurait des choses que peut-être vous n'aviez pas saisies quant à la grâce qui allait vous être expliquée. On va voir pourquoi certains parlent d'un salut irrévocable et de sécurité du salut. Il y a deux raisons. La première, la voici. ils partent d'un postulat, puis ils lisent les Écritures avec ce postulat. Ils ne voient pas l'image globale du message biblique. Moi, l'image globale, c'est ce que j'ai essayé de vous dépeindre en vous partageant tout un tas de versets dans tout un tas d'enseignements et de Jésus et des apôtres. Eh bien, eux, ils parlent d'un postulat. Alors, qu'est-ce que c'est un postulat ? Ben, c'est une idée qu'on ne démontre pas. Et ensuite, je lis le reste des Écritures avec cette pensée que je n'ai pas démontrée. Et du coup, c'est cette pensée qui va être mon guide pour expliquer ce que je lis. Exemple, les 10 vierges, eh bien, comme je pars du postulat qu'on ne peut pas perdre son salut, eh bien, les 10 vierges, les 5 qui ne rentrent pas dans la salle des noces, ah ben, elles ne sont pas chrétiennes. Voilà. Elles ne sont pas vraiment converties. Vous voyez, c'est ça, une lecture à partir d'un postulat de la parole. On ne reçoit pas ce que nous dit la parole, on l'explique par notre propre doctrine. Et ils ont le raisonnement suivant. Ils disent « La grâce n'implique aucune œuvre de l'homme. Donc si l'homme doit faire quelque chose pour son salut, ce n'est plus la grâce. » Alors, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça, c'est Romains 4,4 qui nous le dit. Il n'y a pas de problème avec cette affirmation. Et donc, il continue en disant, bien, la grâce est le don de Dieu. Là, ça, on l'a lu tout à l'heure aussi dans Éphésiens 2. Et il n'y a pas de problème non plus. Et donc, troisièmement, Dieu ne se repent pas de ses dons. Ça, vous le lirez dans Romains 11,9. Donc, une fois la grâce reçue, l'homme ne peut plus la perdre. Et leur conclusion, c'est que donc, le salut n'est plus jamais perdu dès l'instant où la grâce est venue dans notre vie. Et quatrièmement, donc, ils vont avoir une multitude d'explications pour les passages que nous avons vus dans la partie précédente, à cause de ce postulat avec lequel ils lisent les Écritures. Eh bien, je vais vous montrer que ça peut avoir l'air séduisant, ça peut avoir l'air cohérent, mais qu'il y a un problème, parce que la grâce, ça n'est pas un grand sac dans lequel on met tout et n'importe quoi. La grâce, c'est une chose très claire qu'on va voir tout de suite après. Donc, revenons au départ. On a la grâce, on a la foi, et on a le salut. On a vu que le salut, eh bien, c'est l'œuvre et la personne de Christ. C'est l'œuvre de victoire de Christ sur la mort et le péché, afin que le rachat de l'homme soit possible. Ça, c'est ce que Christ a accompli. Toute sa personne, l'agneau de Dieu, l'offrande pour le péché, l'annonce de la grâce de Dieu, etc., etc. Mais alors maintenant, la grâce, eh bien, voici ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le processus par lequel Dieu rend l'homme juste afin qu'il puisse être uni à lui. La grâce est en rapport avec la justification. Elle est toujours liée à la justification. Et qu'est-ce que c'est la justification ? Eh bien, vous voyez cet homme pécheur là ? Eh bien, il va devenir un homme comme Christ. Ses péchés lui sont ôtés et il est rendu juste comme Christ par la grâce. C'est ça la grâce. Et cette grâce, elle est saisie au moyen de la foi. Voilà. Et la foi, je le dis quasiment, je crois, à chaque vidéo, la foi, c'est à la fois la confiance en Dieu, que nous mettons en Dieu, et c'est à la fois la fidélité que nous avons à lui. Et c'est tout le problème. Parce que lorsque cette fidélité n'est plus, lorsque la foi se ternit, lorsqu'on se détourne de la foi ou qu'on chute quant à la foi, eh bien, on va être, comme l'apôtre Paul le dit aux Galates, déchu de la grâce. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retourner à une condition d'homme pécheur, séparé de Christ, comme on l'a lu plusieurs fois dans les versets que je vous ai, dans les passages que je vous ai cités. Donc la grâce, c'est pas le salut. La grâce, c'est la justification de l'homme. Et elle s'obtient au travers de la foi. Mais voici ce que nous dit l'Écriture, Hébreux 10 au verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous retrouvez dans le « si il se retire » les paroles de l'apôtre Paul « si du moins vous demeurez, de peur d'être rejeté moi-même, etc. etc. » Bon, mais il y a quelque chose de très important qu'il vous faut préciser. C'est que l'homme qui chute quant à sa foi et qui retombe dans le péché, il est tout à fait exact que le don de la grâce demeure et que dès l'instant où cet homme revient à la foi, eh bien, il est restauré dans sa condition d'homme gracié, d'homme justifié. Si vous en voulez un parfait exemple, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, on l'associe toujours à l'homme du monde qui ne connaît pas Dieu. Mais dans la parabole, c'est pas ce que dit Jésus. Dans la parabole, il est fils. C'est un fils de la maison. Mais il a pris l'héritage du père et il est retourné dans le monde le dilapider avec les prostituées. Mais dès l'instant où il se repent, il revient au père, eh bien en fait, il est restauré dans sa condition de fils. Ça, c'est important de le préciser. Hein, voilà. Donc maintenant, je vous démontre que la grâce concerne le processus de la justification. Romains 3, 23 et 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. » Par quoi ? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Romains 4, versets 4 et 5. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Donc ça, c'est le contraire de la grâce. Voilà. « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc ça, c'est la grâce. Voilà. Et la grâce, elle concerne quoi ? C'est de croire, donc par la foi, à celui qui justifie l'impie. Donc la grâce, c'est la justification du pécheur. Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» L'abondance de la grâce et du don de la justice. Romains 5, 21. « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout le débat entre la loi et la grâce qui opposait les Juifs, notamment à l'apôtre Paul, avait pour objet la justification devant Dieu. Les Juifs prétendaient qu'ils étaient justes par l'observation de la loi, et Paul leur dit « Non, on est juste par la foi en Dieu, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. » Alors un dernier verset pour vous le démontrer, Philippiens 3, verset 8. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Voyez la connaissance de Jésus-Christ, le salut. « Pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Vous voyez, la justice s'obtient par la foi en Christ, par le moyen de la grâce. Donc la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Connaître Christ, c'est le salut. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y a toujours ce « si je puis ». Il y a toujours cette condition qu'on a vue juste avant dans Hébreux 10, 38. « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est Dieu qui parle. N'écoutez pas les hommes. Écoutez la parole de Dieu. Si Dieu nous déclare que l'homme qui a la foi, il est juste, eh bien, il nous déclare aussi que s'il se retire de cette foi, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Ainsi, une fois notre salut reçu, eh bien, nous sommes invités à nous maintenir en Christ par la foi. Vous voyez ? Et tout ce débat sur « Ah non, c'est la grâce seule, si tu fais une œuvre, non, t'es pas, c'est plus la grâce, alors tu fais un salut par les œuvres, etc. » Mais c'est complètement à côté. C'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'était la grâce. La grâce, c'est qu'il n'y a aucune œuvre qui nous permettra de nous présenter devant Dieu. Toutes les œuvres que nous pourrions faire pour plaire à Dieu, avant, après notre conversion, depuis le début de notre vie jusqu'à notre mort, seraient insuffisantes pour qu'on puisse se prétendre à quoi que ce soit devant Dieu. La seule justice qui nous permette de nous présenter devant Dieu, c'est la justice de Christ. Et elle nous est donnée. Alléluia. Et maintenant, toutes les œuvres que nous sommes invités à faire dans le Nouveau Testament, tout le fruit que nous sommes invités à porter, etc., eh bien ça, ce sont les œuvres de la foi. C'est pour nous maintenir dans cette communion à Christ. C'est pour ça que vous allez lire « Demeurez en moi, je demeurerai en vous » plein de fois, « Demeurez en Christ », etc. Persévérez dans la foi, persévérez. Les apôtres nous disent continuellement ces choses. Jésus nous dit « Gardez ma parole ». Jésus nous dit « Mettez-la en pratique ». Et les apôtres vont nous dire la même chose, gardez ces commandements, ne vous bornez pas à les écouter seulement, mais mettez-les en pratique. Pourquoi ? Pour nous maintenir dans une foi vivante au Seigneur. Et lorsque nous sommes dans cette foi vivante, eh bien, nous pratiquons les œuvres de la foi. Et donc, les œuvres produiront en nous le fruit de l'Esprit qui est à la gloire de Jésus-Christ et non à la nôtre. On va porter le fruit de Christ. Alléluia. Donc j'espère que vous avez bien saisi ces choses. Oui, le salut nous est donné en Jésus-Christ et Dieu ne l'ôtera jamais. Et l'homme qui le saisit par la foi, il l'a pour toujours. On a l'assurance du salut, il n'y a aucun problème. Si nous nous maintenons en lui par la foi. Voilà tout ce qu'il y a à comprendre, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire des débats. Et les œuvres que nous allons faire vont manifester cette foi. Si je suis dans la foi, je ne peux que pardonner à mon frère. Si je suis dans la foi, je ne peux qu'aimer mon frère. Et Jean nous dit dans sa première épître au deuxième chapitre que celui qui n'aime pas son frère, il demeure dans la mort. Donc je peux me prétendre chrétien, aller tous les dimanches dans une église, donner de l'argent à cette église, je ne sais pas, faire des œuvres, etc. Ben, si j'ai de la haine pour mon frère, je suis dans la mort. Même si j'étais baptisé et que ça fait 20 ans que je n'ai pas bougé de cette assemblée. Et donc maintenant, on va voir la deuxième raison de pourquoi un salut irrévocable ou d'une sécurité du salut, ça nous est prêché. Et vous allez voir la deuxième raison. Eh bien, la deuxième raison, c'est que le malin cherchera toujours à nous mettre dans une fausse sécurité. Oui, le malin va chercher à nous mettre dans une fausse sécurité. Je vais prendre trois exemples, très simples, dans la parole. Genèse 3, versets 4 à 5. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Voilà. Dieu a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et Satan dit, « Vous ne mourrez point. » Tout à l'heure, on a lu l'apôtre Paul qui nous dit, « Si vous marchez par la chair, vous mourrez. » C'est exactement la même chose que ce que Dieu dit à l'homme dans le jardin. Mais Satan, lui, veut vous dire, « Mais non, vous ne mourrez point. » Tu peux marcher par la chair, de toute façon, une fois que t'as cru, c'est bon, t'es sauvé. Voyez la tromperie, c'est toujours la même, depuis le début. Second passage, Jérémie 28, versets 15 à 17. Dieu, par le prophète Jérémie, entre autres, avertissait le peuple qui ne se repentait pas, qu'il allait terminer à Babylone. Et il y a un prophète Ananias qui lui dit « Non, 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 tout va bien, vous n'irez pas à Babylone. » Et Jérémie, le prophète, dit à Ananias, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois. Voyez, les choses ne changent point. Il y a des faux prophètes, il y a aussi des séductions. Je ne dis pas que les gens qui prétendent ça sont des faux prophètes, je dis qu'ils sont séduits. Et vous savez par qui? Et dernier exemple, eh bien, c'est Jésus lui-même. Donc dans Matthieu 16, verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Voyez, toujours la même pensée. « Mais non, tu vas pas mourir !» Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Tiens, il était bien inspiré alors Pierre, Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà la raison pour laquelle on vous dit qu'une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé. Oui, lorsque nous recevons le salut, nous avons cette assurance. Oui, amen. Nous sommes en Christ, nous marchons en lui, nous avons la foi en lui, alléluia. Nous sommes certains d'être sauvés, gloire au Seigneur. Mais nous ne devons pas ignorer tous les avertissements de l'Écriture. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, etc., etc. Oui, vraiment, il nous faut retenir tout ça. Les religions traditionnelles, tout en maintenant les hommes sous le joug de la culpabilité, ont fait la promotion d'un salut facile. Tu as été baptisé bébé, tu es sauvé. Eh bien, bien que les hommes fidèles s'attachent à retourner à l'Écriture, eh bien le malin veut toujours faire ressurgir ce même genre de pensée. Tu as invoqué le nom du Seigneur, tu es sauvé. Dans tous les temps, on a eu ce principe-là. Ça n'est pas ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 4 et verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» La Bible nous dit que le juste se sauve avec peine, qu'on n'a pas un salut facile. Jésus nous dit « La porte de la vie éternelle est étroite et le chemin est resserré. » C'est en totale opposition avec ce salut où l'on te dit « Oh, tu as invoqué Dieu en 1992, tu as pris ton baptême, eh bien tu es sauvé. Même si aujourd'hui tu vis loin de Dieu, même si aujourd'hui tu te moques éperdument de la volonté de Dieu, tu es sauvé. » Non mais soyons sérieux, soyons sérieux. Frères et sœurs, Une dernière exhortation, c'est Hébreux 2 au verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et les choses que nous avons entendues, c'est connaître Christ, voilà, tout simplement. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Il parle à des enfants de Dieu, qui, annoncés d'abord par le Seigneur, nous a été confirmés par ceux qui l'ont entendu. Frères et sœurs, veillez sur vos âmes, veillez sur votre salut, restez attachés au Seigneur, gardez la foi et grandissez dans cette foi vivante au Seigneur, que vraiment le Seigneur vous donne des révélations sur lui, sur sa personne. Connaissez-le toujours davantage de jour en jour et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.